foot international avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, bien entendu. Et nous allons aujourd'hui évoquer deux grands sujets. D'abord, ce triplé historique pour Manchester City. Les Citizens de Pep Guardiola sont les premiers à soulever trois trophées anglais la même année. Un titre de champion et puis deux coupes, la FA Cup et la League Cup. Ce triplé inédit compense-t-il l'élimination rapide en Ligue des Champions? Et le style Guardiola est-il fait pour la compétition européenne la plus cotée? Des questions que nous nous poserons alors qu'une folle rumeur est autour de Pep Guardiola, l'entraîneur catalan. Serait-il en route vers le sud? A-t-il mis le cap vers Turin? La nouvelle est une bombe du côté de l'Italie. Le foot féminin à l'honneur dans Radio Foot aujourd'hui. Le foot féminin raconté par des filles. Un tour du monde même de ce football féminin sous l'œil de la caméra de deux anciennes footballeuses qui sont là dans le studio. Candice Prévost et Mélissa Boetti, bonjour.
Bonjour. Bonjour Mélina.
Mélina, pardon. Mélina, excusez-moi.
C'est l'histoire de ma vie. Sur le maillot, il avait marqué Mélina. Ah. Pourtant.
Il y a une Mélissa aussi dans le football. Ça doit être pour ça que parfois on a des confusions. Excusez-moi. En tout cas, vous avez posé un pied, vous avez aussi posé un ballon sur les 5 continents, dans 14 pays. Hein, vous m'avez bien confirmé ça, oui, oui. Pour rencontrer des filles, des jeunes filles, des femmes qui s'amusent avec un ballon ou qui pratiquent le football en équipe et d'une manière un peu plus sérieuse. Alors à 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine en France, eh bien nous ferons un tour d'horizon de cette pratique à travers le monde grâce à vous. Et puis il y a aussi, eh bien on est à parité aujourd'hui dans ce studio. On est même majoritaire. Oh là là, Karine Galli, bonjour. Vous êtes
bonjour,
en renfort.
Je suis en renfort et surtout je suis très contente de retrouver les copines parce que nous étions ensemble à Eurosport il y a quelques années.
Comme quoi, on ne se perd jamais du dans le monde du football. Salim Bongali, vous faites équipe avec Olivier Pron aujourd'hui. Bonjour les garçons.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Mais toujours un plaisir de retrouver Mélina et Candice que j'ai connues là encore à Eurosport.
Ouais, oui, bah, t'emballe pas. Moi, j'ai le plaisir de les retrouver parce que nous, on s'est croisés sur le terrain au Ghana fin novembre et c'était un vrai plaisir.
Voilà, il les a croisés in situ, on va dire, alors que vous aimez le football féminin.
Certes.
Hein, un garçon qui aime le foot féminin, c'est intéressant aussi. C'est pour ça que vous êtes là, Salim, aujourd'hui.
Ah ben moi aussi.
Oh. Alors, un bonjour aujourd'hui à certains auditeurs qui se signalent sur la page Facebook. Yaya Bayo à Ziguinchor au Sénégal. Le roi Sané, en 3 mots, au Burkina Faso. Désiré Kouadio à Yamoussoukro. Ou encore Souleymane Kalé au Mali. Radio Foot, c'est parti.
À nous suivre parce qu'on est en train de vivre une expérience assez dingue.
Candice Prévost, donc, et Mélina Boetti, vous êtes donc des anciennes footballeuses. D'abord, on vient d'entendre, là, c'est la bande-annonce, comme on dit, de ce documentaire. Il va y avoir deux formules, disons, dans le documentaire. Un long, un court. Mélina?
Un long, alors un format long d'une heure qui va passer sur Planète le 6 juin et qui retrace toute l'aventure, toutes nos rencontres, mais aussi notre histoire dans l'histoire, on va dire, sur plus d'un an de voyage. Et une série documentaire de 12 épisodes, un par pays, notre dream team du monde, 11 pays du monde et la France en miroir ou reflet des bonnes pratiques et des mauvaises qu'on a pu, des bons points et des mauvais points qu'on a pu attribuer et qu'on met sur le tapis des instances aussi françaises et des téléspectateurs français.
Voilà, ça passera pendant la Coupe du Monde donc féminine et ça sera disponible aussi sur MyCanal donc pour nos auditeurs et sans doute aussi nos auditeurs africains qui sont abonnés à Canal+. Vous êtes d'anciennes footballeuses, racontez-nous dans cette footballeuse de où et quand, parce que je crois qu'il y a un PSG Marseille entre vous.
Ça commence. La brune
brune, la blonde, le sud, le nord.
Les yeux bleus, les yeux marrons.
Mélina a joué à Marseille, moi j'ai joué en Normandie d'abord, puis au Paris Saint-Germain ensuite. Et effectivement, on a deux histoires complètement différentes de nos débuts avec le ballon rond.
Alors racontez-nous, vous, Candice Prévost.
Mais moi, je jouais dans mon parking juste derrière ma maison, et c'était une pratique plutôt street, sauvage, quoi, sans institution, sans club, parce que forcément.
Pour vous amuser.
Je faisais du tennis en club. C'était à Évreux, en Normandie. Je salue tous mes amis normands. Et en fait, je faisais du tennis dans un club, et je sortais des terrains couverts et je voyais les terrains de football, et en fait, je voyais pas de jeunes filles taper dans le ballon, et bêtement, on se dit, c'est pas pour les filles, en fait, parce qu'il n'y a pas de filles. Donc moi, j'avais pas trop ma place là-dedans, mais par contre, je jouais très bien avec les garçons dans les cours de récré, avec mes voisins chez moi. Donc c'est parti comme ça, et puis après, l'histoire a commencé dans un club en 98 grâce à Zizou et ses copains qui ont permis, en fait, de verser de l'argent, parce que finalement cette victoire en Coupe du Monde en 98 a permis de libérer un peu d'argent pour la Ligue de foot amateur et de créer des sections féminines. Et grâce à ça, dans mon club où il n'y avait pas de jeunes filles, il y a eu une section féminine.
Et donc au moins 11 jeunes filles pour...
Exactement. Jeunes femmes, même, parce que j'avais 15 ans, et donc j'ai commencé finalement très tard.
Et après, voilà. Vous montez à Paris.
Et après, bien sûr, après le premier entraînement de foot à Évreux, on m'a dit après l'entraînement, le coach m'a fait venir avec mon père, il m'a dit équipe de France, j'ai juste entendu ça, équipe de France. Donc j'ai dit, ah génial, je rêve, je commence à rêver. J'ai commencé à rêver grâce à Zizou, les étoiles dans les yeux, et puis après, j'ai rêvé moi-même pour mes propres objectifs. Et donc forcément, il faut, je fais STAPS à Cergy Pontoise, et qu'est-ce que je fais? Donc à côté, il y a Saint-Germain-en-Laye, et Saint-Germain-en-Laye, il y a le Paris Saint-Germain, et c'est parti pour le Paris Saint-Germain à l'âge de 19-20 ans, et j'y suis restée 9-10 ans, presque 10 ans là-bas, pour jouer en D1 féminine, et en N1A à l'époque, parce que bon, c'est comme le Challenge de France, avant, maintenant c'est la Coupe de France, il y a toutes ces, ces évolutions-là, et l'équipe de France, et la Ligue des Champions, quoi. J'ai joué à la Ligue des Champions, et ça c'est une énorme fierté.
On n'a pas gagné le titre.
Ah, Ligue des Championnes, j'aime beaucoup.
On dit ça.
Donc on va parler de foot,
Mélina.
Et pas de foot féminin et de foot masculin.
On est d'accord. Moi, ça a l'air facile dans sa bouche, de faire carrière.
Non, moi, à Marseille, c'est plus dur.
Non, c'est les démarrages. Je viens d'un village, donc forcément pratique mixte.
Lequel?
Saint-André-les-Alpes.
Une autre provençale ici.
Ouais, Saint-André-les-Alpes dans les Gorges et Verdon.
J'avais moins l'accent, moi. C'est vrai.
Un chouille. Quand tu vas dans le sud, tu le reprends.
Elle l'a perdu un peu.
Et donc oui, pratique mixte, enfin mixte si on peut dire, hein, parce qu'il n'y avait pas du tout la parité. J'étais la seule résistante sur le terrain, le stade des Peupliers. Et puis finalement, j'ai commencé donc à 6 ans. J'ai fait l'école de foot avec les garçons jusqu'à la puberté, au moment où on nous dit stop, hein, interdiction d'accéder à l'équipe, puisque on a des seins qui poussent. Enfin moi, ça a pas trop poussé, mais en tout cas, j'avais pas le droit de rentrer dans les vestiaires. Et donc là, ça s'arrête un peu net, et on attend d'aller faire ses études à Marseille pour reprendre le football à 11. Et il s'avérait que moi, quand je suis arrivée en National 1A, donc au meilleur niveau avec le Celtic Marseille, j'avais dû jouer en termes de temps effectif peut-être aller 45 minutes dans mon enfance à 11. Donc c'est difficile de prendre le pli, même si techniquement j'avais les habiletés, mais physiquement, les automatismes, le vice, enfin tout ça, ça s'apprend sur un grand terrain, et je les avais pas. Donc j'ai fait 2 ans au plus haut niveau avec le Celtic Marseille. Ensuite on est descendu, on prenait quand même des valises. c'était dur, hein, à cette époque. Et puis après j'ai joué principalement à un niveau régional avec Juvisy. Je me suis rapprochée de la région parisienne pour le boulot. Et voilà, donc j'ai pas connu une carrière aussi brillante que celle de Candice, mais en tout cas dans la pratique et dans le plaisir qu'on a d'y jouer, je pense que c'était assez similaire.
Elle taquine un peu, ouais. Elle taquine un peu, comme on dit.
Et vous jouez encore aujourd'hui? Vous avez l'occasion? Alors dans le film, enfin dans les documentaires, oui. On vous voit beaucoup échanger des ballons et faire des passes avec les personnes que vous rencontrez.
Mais c'était important de mouiller un peu le maillot aussi. Little Miss Soccer, c'est aussi de jouer au foot avec les femmes du monde. et d'ailleurs pas que des femmes, parce que l'idée c'était aussi de partager avec les garçons, surtout ouais. pas les
montrer
isoler.
Montrer que vous aussi.
Ben oui, hein. bien sûr. L'idée c'est de fédérer, d'être ensemble. Et c'est vrai que quand on a joué, ça, on s'essayait pas à jouer à des niveaux trop élevés face à des professionnels, mais par contre on s'amusait plus à jouer avec les mamies en Afrique du Sud ou alors au Pérou à 3008.
J'ai fait un râteau.
Et c'était non mais c'est vrai que c'est important de jouer, mais par contre le lendemain on devient sédentaire, je vous assure.
Je joue 5 au 5 encore.
Oui, c'est vrai.
J'ai intégré la ligue du 5 La Villette. Ils organisent une ligue féminine depuis 3 ans, et donc c'est des demi-saisons, et j'ai joué une fois par semaine encore pour un peu m'entretenir.
Oh, elles étaient pas loin d'avoir quand même très envie de jouer. Moi je me souviens quand on s'est retrouvé à l'entraînement du Cameroun, ouais. ces entraînements, vous savez, Annie, qu'on aime tant pendant les Cannes, quand il y a cette lumière un peu entre chien et loup, et que c'est tout calme, qu'on est loin de l'effervescence des hommes, et où c'est blindé de force de l'ordre, et on a le loisir d'approcher, d'observer, de sentir, d'entendre, de discuter. Et je me souviens d'un soir, effectivement, avec les Camerounaises, où on sentait que si elles avaient pu aller, elles aussi, il fallait qu'elles filment un peu quand même.
Comment c'est courir après le ballon quand on est à 3800 mètres d'altitude dans les Andes? Parce que c'est légendaire, hein, en tout cas, l'équipe de Bolivie qui toujours piège ses adversaires à Santa Cruz, là-haut. Enfin, non, pas à Santa Cruz d'ailleurs.
Les Bleus vont jouer à Tignes en préparation. Ouais. Non, mais c'est un exercice moi, j'étais gardienne de but, hein, à un moment donné, parce qu'il faut respirer à un moment. Enfin, vraiment, hein, Mélina a fait une traversée. Elle est revenue, elle a les mains sur les cuisses. Et ces femmes, elles ont, je sais pas, parfois elles ont la cinquantaine.
Elles ont 3 poumons,
c'est tranquille. Hein. Bah oui, elles sont habituées, puis elles aiment ça.
Elles font le match de la coca à longueur de journée. Oui, hein, on était à la théine, coca, Inca cola, la camomille, on avait tout fait.
Mais nous occidentales que nous sommes, on a beaucoup appris aussi, j'allais dire physiquement sur les terrains, mais aussi à côté. C'est ça qui est vachement bien, c'est qu'on peut témoigner sur le terrain, mais aussi en dehors, et ça c'est vraiment très très cool.
Alors racontez-nous un peu cette aventure. Pourquoi d'abord être partie enquêter sur le football féminin? Parce que vous êtes pratiquante? Parce qu'il y avait la Coupe du Monde en perspective, ou aussi une grande curiosité?
Il y a un peu les trois. Je pense
de Normande.
Oui, peut-être d'un coup, peut-être maintenant. Mais non, mais c'est oui, il y a un peu tout ça. Je pense qu'il y a... On avait envie de se rassurer un petit peu sur le football, parce que parfois on avait l'impression de s'y perdre un petit peu dans des montants qui sont incroyables. On avait envie aussi de rendre visibles des femmes qui ne l'étaient pas, qui avaient des histoires à raconter, parce que le football c'est avant tout des histoires avant des sommes et des montants. Donc l'idée c'était d'essayer de trouver un traitement éditorial qui soit peut-être différent de celui que les médias utilisent régulièrement, et qui est très bien d'ailleurs, parce qu'il faut parler des schémas tactiques de Corinne Diacre pendant la Coupe du Monde. Il va falloir parler de ce rectangle vert, c'est super important. Mais on s'est dit que peut-être pour toucher un peu tout le monde et des personnes qui n'y pigent rien au football, ben peut-être qu'on prenne un peu cette hauteur-là et qu'on traite de thématiques plutôt sociétales.
Pas seulement à travers des compétitions donc.
Et voilà, non, un peu tous les sujets.
Ouais. Ouais, c'était vraiment de retrouver l'essence du football qu'on a aimé, avec lequel on s'est construite, et cette essence, bah oui, on la retrouve évidemment au haut niveau, mais là où le folklore se mêle à l'exotisme, se mêle à la langue, une langue différente de la nôtre, et où les claquettes volent, les tenues diffèrent, les supporters deviennent des lamas. Enfin bon, tout ça, j'avoue que ça, c'était cette curiosité-là qui nous a animés. Mais c'était aussi le gros du message, c'était de dire ok, le foot il est universel, on nous l'a toujours présenté comme ça.
Il paraît qu'il y aurait 33 millions de pratiquantes.
Oui, et c'est un chiffre qui date de 2016, alors je pense que ça a encore évolué. C'est un chiffre FIFA,
mais je pense qu'en fait certaines personnes qu'on a rencontrées ne sont pas listées dans dans ce chiffre-là.
Oui. Bien, la FIFA il compte mieux les dollars et les euros que les pratiquantes.
C'est ça.
Salim. Juste, j'avais une question par rapport à votre connaissance donc du foot féminin. Vous l'observez au quotidien, au final, en France. Malheureusement, en France, on a un regard très macho, on va dire, très machiste des choses, et une vision très machiste des choses.
On compare toujours, c'est ça le problème.
Et c'est le problème aussi, on compare. Est-ce que dans d'autres pays, vous l'avez observé aussi cela, ou au contraire, il y a une vision plus égalitaire peut-être des choses dans certains des pays que vous avez pu visiter?
Il y a de tout. Il y a une photo peut-être de l'Argentine qui serait la photo de la France 20-30 ans avant. Donc avec ce retard qui est énorme, qui est dans ce pays ultra machiste. On est resté bête, on s'est dit mais tu connais une joueuse argentine, toi? Non. Le pendant de Maradona, Di Maria, Higuain, de toutes les stars et ce football qui transpire, ce pays qui transpire le football. On s'est dit non, et du coup, c'est vrai que là, on a trouvé des filles avec une pratique de five, de multiple, et ça joue partout depuis la Coupe du Monde masculine 2014 au Brésil. Ça a fait un petit peu tache d'huile, les vapeurs du football sont montées jusqu'à Buenos Aires. Et là, on a trouvé des filles qui se battaient et qui déjà occupaient le terrain, c'était déjà un acte de militance très fort, et elles s'en servent aussi pour provoquer. Il y a une Argentine qui nous a dit quand les femmes jouent au football, les hommes se sentent menacés. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un levier aussi pour dire on est là, on perdra pas notre place maintenant, habituez vos regards à nous voir sur les terrains, on y restera. Donc ça c'était fort, et puis après il y a des bonnes pratiques.
Ouais, mais quand tu pars déjà, quand tu vas au pays du soccer, au pays où la femme est reine aux États-Unis, et que même là-bas tu vois qu'il y a des inégalités salariales alors qu'elles sont économiquement plus viables et plus riches que leurs homologues masculins, tu te dis que même elles qui ne sont pas considérées comme légales de leurs homologues, tu dis que déjà là tu pars mal, parce que dans les autres pays ça va être encore moins bien.
Bien sûr.
Et tu dis bon le pays où c'est au top du top, t'as déjà ce problème d'inégalité là. Après on s'est rendu compte quand même que toutes les femmes jouaient partout en fait, et que ça progressait, et qu'on avait finalement, on a l'impression que tout le monde avait pris le train, et tout le monde, toutes les femmes jouent partout dans le monde. Les Boliviennes, même s'il y en a, elles sont pas nombreuses, on a rencontré des petites, une école de jeunes filles qui jouent en Bolivie, et donc tout le monde, ça joue partout.
Oui, et puis on sait pas ce que c'est le moins bien. Est-ce que le moins bien c'est les pays qui n'encapent pas le pas du schéma entre guillemets masculin du foot business? Est-ce que le foot féminin doit aller vers la professionnalisation et du coup marcher dans les traces du foot masculin? Je pense que tous les avis se valent, et les pratiquantes, en tout cas, elles ont cette diversité de discours. Toutes ne veulent pas être professionnelles.
Vous avez fait le Mexique ou pas?
Oui.
Ouais, parce que le Mexique, c'est là où il y a le record du monde de spectateurs pour un match de football féminin. Donc c'est assez bluffant de voir les affluences de ça. Est-ce que vous avez été surprise de ça? Est-ce que vous, quand vous êtes allée au Mexique, vous vous êtes rendu compte à quel point finalement le Mexique aimait le foot masculin et le foot féminin? Ou c'est juste un record qu'on nous rabâche à chaque fois, et finalement c'est pas aussi évident quand on est dans le pays?
C'est nous, ce qui est marrant, c'est qu'on a atterri à Tijuana, et on a tout de suite été dans un match de baissé de rideau. Les filles jouaient en baissé de rideau, des garçons, c'était les cholas, donc les cholos jouaient avant et les cholas ensuite. Bon, ça s'est vidé un petit peu à la fin, mais on a discuté avec un journaliste sportif qui nous racontait qu'en fait maintenant il y avait cette idée de projet global, et il y avait une vraie, comme le fait l'Olympique Lyonnais avec les hommes et les femmes, et donc c'est un projet global où ils sont tous les deux associés. Et ça, c'est, je pense que c'est, ils ont tout compris au Mexique par rapport à cette logique-là. Alors oui, il y a un petit peu de market, il y a un petit peu de communication, c'est un peu de com, et c'est normal, et tant mieux. Mais au moins, ils ont le mérite de le faire et de bien le faire. C'est les débuts, c'est les prémices. Mmh. Le championnat est professionnel depuis 2 ans. Et on a justement suivi
la Liga MX.
Et
voilà, ils travaillent à l'identité club en fait, comme le fait le PSG, l'Olympique Lyonnais, bon, aussi sur l'Olympique Lyonnais sur la base de résultats quand même qui vont au-delà de l'échelle domestique. Mais c'est vrai que c'est le bon élève, c'est Pachuca, c'est le club de Pachuca. Ils ont toutes les infrastructures en commun, salle de presse, les matchs, les télévisions. pareil, tous les mêmes médias, les mêmes reports. Enfin, vraiment, c'était hallucinant de voir ça. Et puis les filles gardent quand même un double projet, comme le faisait Juvisy ou le fait le Paris FC actuellement pour les filles. C'est-à-dire qu'elles sont elles ont l'école, l'université juste à côté du club. Donc il y a une vraie dynamique globale. Les joueuses croisent les joueurs. C'est une
miroir,
seule et même entité en miroir. Ouais. Et c'est ultra dynamisant pour les filles.
Olivier,
on est aux antipodes de ce que vous avez pu sans doute constater en Afrique. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas tombé sur la bonne canne la dernière au Ghana avec des stades plutôt vides. Ça tranchait avec la canne précédente au Cameroun où là les stades étaient vraiment pleins et où on sent qu'il y a vraiment il y a quelque chose autour des filles. Des Lyonnes qui seront à la Coupe du Monde d'ailleurs dans quelques semaines. Mais c'est quoi vos impressions? Vous êtes allé en Afrique du Sud, on était ensemble donc au Ghana, assisté à cette CAN. Les stades sont vides. Bon, parfois même pour les hommes, les stades sont vides. Hein. Faut pas se voiler la face sur les CAN.
Sur les CAN, oui.
Mais alors, voilà, on a parlé de l'Amérique du Sud. Vous êtes allé en Asie, mais l'Afrique dans tout ça. Quelle impression ça vous fait?
Sur cette canne-là, c'est vrai que le Ghana qui sort au niveau des groupes, ça a un peu plombé l'ambiance. Nous, on est arrivés pour vivre le troisième match de groupe, donc elles étaient condamnées, elles dépendaient aussi du résultat de l'autre match. Et là, le stade était quand même, il y avait une effervescence réelle et le stade était aux deux tiers plein, on va dire. Après, je pense que ça a plombé un petit peu l'ambiance, mais moi, ce que j'ai l'habitude de dire sur les supporters et supportrices africaines, il y a tellement de ferveur nationale et de passion, en fait, pour défendre les couleurs, défendre la nation que même en petit comité, on avait l'impression que le stade était plein. Nous, on a croisé Ngando Piquet, qui est la mascotte des Lions et des Lions Indomptables, il a bien précisé. Donc, il y a même ce lissage entre football féminin et football masculin, par l'amour du maillot. Rien que de poser notre caméra sur lui, sur deux pionnières aussi de l'équipe camerounaise, de la première équipe nationale camerounaise, c'était fabuleux. La demi face au Nigeria, quand il arrive l'épreuve des pénaux, il nous dit ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'on dirait un chat.
Ouais, ce sont des phénomènes. On a rencontré la première capitaine camerounaise qui était présente dans les tribunes. Donc c'est incroyable. Et puis c'est vrai qu'elle en vaut 20, quoi. C'est avec les vouvouzélas qui nous transpercent les tympans et mais c'est magique. Nous, on voulait en vivre une, on voulait vivre une CAN. Bon, effectivement, le scénario était pas en notre faveur.
C'est-à-dire que les CAN en Afrique, c'est quand même le Nigeria qui gagne à la fin.
D'ailleurs, elle s'appelle Coupe d'Afrique du Nigeria. 7-9, elles ont fait.
Et en Afrique du Sud, qui est un pays qui a accueilli la Coupe du Monde, est-ce que là aussi, ça a planté une petite graine pour encourager les filles à pratiquer?
L'Afrique du Sud, on a rencontré une organisation particulière. Je parle des
Granis.
On a rencontré les Vakegula. Vakegula en langue tsonga, ça veut dire grand-mère. Et donc c'est Mama Beka, cette femme qui a fondé cette association et qui permet aux jeunes femmes qui sont généralement, enfin jeunes femmes. Pourquoi je dis jeunes femmes?
Aux vieilles dames.
Aux vieilles mamies. Qui avaient entre 55 et 85 ans de jouer
jeune
au foot. Voilà, c'est ça. Mais nous, on arrête à 30 ans, tu vois, et elle commence à 55. C'est l'histoire
pas de jubilé là-bas.
C'est ça.
C'est pour se distraire, c'est pour s'occuper.
Ouais, c'est pour être ensemble. Elles sont pour la plupart veuves et donc pour recréer ce lien social peut-être perdu parce que les enfants sont partis et qu'elles sont vraiment toutes seules. Et puis pour se maintenir en bonne santé aussi. Donc on a rencontré ces femmes un peu extraordinaires qui commencent leur échauffement en boitant. Et qui font un entraînement un peu adapté, je dirais.
Dans des quartiers populaires, j'imagine.
Dans la région du Limpopo, qui est une région des plus pauvres d'Afrique du Sud, et justement où ces femmes-là sont gérées par des éducateurs qui sont organisés comme à l'école avec des carnets de présence. Ouais, et ils sont même, quoi. Attention, tu viens avec ta bouteille d'eau, si t'as pas ta bouteille d'eau, tu t'en vas.
Vous avez parlé des filles, et notamment des Lyonnaises, hein, parce que c'est quand même l'équipe qui actuellement domine l'Europe. Elles ont samedi soir à Budapest, remporté en Hongrie une sixième Coupe d'Europe, six Ligues des Championnes, hein, comme on dit sur RFI, et surtout une quatrième Coupe consécutive. Résumé de ce match avec Eric Mamrut et Eric Chorin.
Attention à ce ballon qui traîne à la surface de la passe, à l'ouverture du score lyonnais, justement pour me contredire avec ce centre parfait de Janis Van Sanden, conclu par
Marosan
devant son public. Débordement de Van den Sanden sur le côté droit. Le centre, attention, elle est toute seule, elle tergiverse un peu et elle marque le deuxième but. 14e minute de jeu. Magerie qui donc monte beaucoup avec son pied gauche, qui rentre dans la surface de réparation, qui centre, attention, la frappe du gauche, le troisième but d'Egerberg, 3-0 pour Lyon. Le décalage sur le côté droit pour Lucie Bronze qui a le temps pour centrer, voilà qui est fait, le quatrième but, la reprise de volée de génie, le sommaire, 4-0 pour Lyon, ouiouioui.
Elles sont contentes, les Lyonnaises, elles sont heureuses, elles ont remporté pour la sixième fois la Ligue des Champions.
Ce match était retransmis sur RFI donc samedi en direct de Budapest. C'est une domination écrasante des Lyonnaises, vous diriez ?
Bah oui. Très clairement, le championnat, du championnat, la Ligue des Champions, c'est...
elles font des triplés, elles.
Elles enfilent des perles.
C'est
vrai qu'elles ne banalisent finalement pas et jamais. C'est ce qui fait qu'elles sont toujours, elles ont toujours soif de toujours gagner.
Elles ont battu le FC Barcelone.
Elles ont battu facilement d'ailleurs.
Il n'y a pas eu match.
Avec la star du football africain, Azizia, qui marque le but, qui sauve l'honneur des Barcelonais. Le Nigeria est là et l'Afrique finalement pointe un peu le bout de ses crampons.
D'ailleurs,
sur
j'ai pas compris pourquoi elle n'était pas titulaire.
Oui, moi non plus.
Parce que ça a tout
quand
changé quand elle est rentrée.
Effectivement, quand on voit ce qu'il y avait avant.
Annie, je vais compléter votre propos. Vous disiez meilleure équipe d'Europe, on va même le dire meilleure équipe du monde depuis de nombreuses années. Et c'est vrai ce que disait Candice, Lyon arrive à enchaîner les titres sans les banaliser au final. Alors, le championnat, on a l'impression qu'il y a deux grosses équipes, Lyon et le PSG, les autres sont un ton en dessous, le Paris FC et d'autres. Mais en Coupe d'Europe, réussir à chaque fois à se mobiliser, réussir à se motiver comme elles le font et à gagner les titres parce que il y a des heures.
En 34 minutes, c'était fini le match.
Notamment. Hein. Alors, même si le FC Barcelone est évidemment pas l'équivalent du foot masculin, mais c'est pas la deuxième meilleure équipe européenne en foot féminin. Il y en a d'autres qui sont au-dessus normalement.
Depuis 4 ans seulement.
Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui veulent et qui montent, notamment en Angleterre, le Bayern également en Allemagne, qui investissent en masse dans le foot féminin. Et pourtant Lyon réussit à rester au-dessus. Et ça aussi c'est fort.
Et Lyon contribue à populariser le foot féminin. Mmh. C'est qu'à chaque titre on peut imaginer. Alors je sais pas, Karine, ce qu'elle en pense, parce que vous êtes aussi proche du foot féminin dans vos activités, mais pense à la télé, à la diffusion de matchs, les audiences augmentent. Je pense que les performances enchaînées de Lyon, qui sont de plus en plus visibles à la télévision, contribuent à amener de plus en plus de monde à regarder. Je sais pas quels étaient les scores du match samedi, mais à mon avis plutôt pas mal vu l'horaire en plus.
Non, mais c'est sûr. Moi, je suis le foot féminin pour W9 depuis septembre. Avant, j'avais suivi à l'époque Candice au PSG et à l'OL lors des années Ligue des Champions, mais ça remonte quand on était jeune. Ce qui est incroyable, c'est de voir effectivement les audiences. Déjà, les stades sont pleins. Le seul stade qui n'a pas été plein, c'était Nice. Mais Nice est une ville compliquée par rapport au foot, que ça soit masculin ou féminin. On le voit que les mecs ne remplissent pas leur stade. Tous les autres stades, ils étaient à chaque fois pleins et les audiences sont incroyables. À chaque fois, quasiment, l'audience, c'est 1 million et pique à 1,3 million, etc. Pour faire un comparatif, par exemple, la Ligue des Nations, qui est aussi un des droits que W9 a acheté, ne fait pas ces scores-là. Et ils ont été très surpris. Ils pensaient que la Ligue des Nations, donc par exemple un Pays-Bas-Allemagne, allait faire plus que l'équipe de France féminine. En fait, c'est tout le contraire, parce que les gens se déplacent, les gens regardent, et puis maintenant, même s'il y a un énorme travail à faire, tu dis Wendy Renard, la petite, elle sait qui c'est, tu dis Eugénie Le Sommer, elle sait qui c'est. Alors, il y a encore un travail à faire, parce que quand tu demandes aux gens lambda dans la rue, il y a une enquête qui a été faite notamment par Orange, les trois quarts du temps ils disent que Viviane Assayi c'est une chanteuse hip-hop, etc. Enfin, donc il y a encore du boulot.
Elle chante aussi,
voilà.
On peut la faire chanter du hip-hop.
Mais ce qui est sûr, c'est que les gens quand ils viennent, les audiences sont très bonnes. Donc c'est pas juste on parle du football féminin parce qu'il faut en parler. La réalité, de toute façon, c'est économique. Si les audiences sont bonnes et si les stades sont pleins, ça va intéresser tout le monde.
Mais c'est après, vrai qu'à RFI, il faut reconnaître, c'est la première fois qu'on retransmettait en intégralité une finale de Ligue des Champions. C'est la première fois, j'ai eu la chance de les rencontrer, c'est la première fois qu'on envoyait un journaliste de Paris sur une CAN. On n'avait jamais envoyé quelqu'un directement, on faisait couvrir par nos correspondants, donc il y a un vrai engouement, et c'est, ça n'est pas que parce que la Coupe du Monde est en France dans quelques semaines. Nous, RFI, c'est le monde qui nous intéresse.
Salim.
Après, donc, il y a un engouement qui est évoqué notamment par Karine. Maintenant, on parle de Lyon qui, effectivement, avec ses victoires, amène à un intérêt supplémentaire. C'est un fait. Maintenant, l'intérêt supplémentaire, il existera aussi si la France va au bout. Parce que c'est au final ça qu'on attend depuis de très nombreuses années à travers de nombreuses éditions, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. On s'est toujours dit, ah, si la France va au bout, ça va amener beaucoup plus de licenciés. Ça va amener un boost économique et tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu ce boost-là, ou en tout cas, jamais eu ce titre. Donc, le boost.
Mais il y a beaucoup plus de licenciés, par contre.
Mais il a existé ce boost, mais pas autant qu'on aurait voulu le voir. Il faut absolument que l'équipe de France gagne à un moment donné pour qu'il y ait un véritable.
Oui, et je pense qu'il faut que tu t'identifies aussi à des joueuses. Et l'autre soir, j'étais avec Laure Boulot, qui est très, une très bonne,
désormais.
Oui, qui est une très bonne amie de Candice. Et elle disait, moi, quand j'étais petite, je voulais être Bichente Lizarazu. Et Louisa Nessib, elle voulait être Zinedine Zidane. Et en fait, c'est très bien, sauf que demain, il faut que Janine, là, ou Émilie, n'importe qui, elle ait envie d'être Amandine Henry. Janine, ça pour eux. Il faut que la bébé Karine de 6 ans, elle ait envie d'être Amandine Henry, elle ait envie d'être Viviane Assayi, Jenny Renard, Sarah Boisdier, etc. Et en fait, il faut que tu identifies à des filles, et pour t'identifier, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut qu'il y ait des buts et des buts marquants. Tout le monde a voulu être Zidane le jour où Zidane, il a marqué un doublé en finale de Coupe du Monde.
Oui, sur le terrain, t'as raison.
La suite de carrière.
Et sur le terrain, il faut effectivement briller, mais j'ai l'impression quand même qu'on surfe aussi sur les garçons par rapport aux garçons, sur ce que eux font aussi, et on a de la chance nous footballeuses de surfer sur la popularité, la ferveur du football en France, et ça c'est cool, ce qui est pas le cas pour les handballeuses qui sont quand même championnes, qui ont été championnes du monde et qui font redescendre le soufflet tout de suite après, parce que en fait finalement on a l'impression que médiatiquement il y a plus d'intérêt. Le football nous donne cet intérêt là très très fort et nous permet ça, et je suis pas sûre que... Oui, je pense que c'est important de briller sur le terrain, de raconter des histoires hors terrain aussi, parce que je pense que ça va donner un peu du crédit au foot féminin.
Bah justement, surfer sur la vague, eh bien pourquoi pas l'équipe de France surfer sur la dynamique lyonnaise. C'est justement ce que disait Corinne Diacre, les filles, les bleues avec un E, les bleues E. Elles sont actuellement à Clairefontaine, elles s'entraînent, la Coupe du Monde va commencer dans à peine 15 jours. Et Corinne Diacre disait donc hier qu'elle allait s'appuyer sur les joueuses de l'OL parce qu'il y en a 7 dans l'équipe de France.
Quand on accueille 7 championnes d'Europe, tout se passe très très bien, au contraire. Elles ont aussi très vite basculé entre cette finale et puis la préparation et surtout le fait de nous rejoindre. Donc très sincèrement, le groupe continue de bien vivre. On surfe aussi, nous, un petit peu sur cette vague de l'Olympique Lyonnais, puisqu'elles nous ont apporté déjà un titre supplémentaire. Elles apportent également de la joie de vivre. Et puis maintenant, il nous reste à faire comme elles. Voilà, aller jusqu'au bout.
Alors aller jusqu'au bout, c'est ce que vous disiez Salim, parce que la compétition est en France, et c'est vrai que, alors on parlait tout à l'heure du Ghana, quand il y a eu cette CAN au Ghana, on peut aussi évidemment penser à la France pendant l'Euro ou la Coupe du Monde, c'est quand il y a des grandes compétitions, si le pays organisateur va très loin, évidemment, ça aide à l'ambiance dans le pays.
Il y a un cercle vertueux qui peut se créer, alors on l'a dit en termes d'audience, en termes donc économiques au final, en termes
de résultats
et donc de supporters qui se rassemblent. Vous savez, si on pendant l'Euro 2016 notamment, on avait ces fanzone, merci, avec des milliers, des dizaines de milliers même de personnes pendant la Coupe du Monde 2018 aussi.
Sur la Tour Eiffel,
imaginez cela un instant pour la Coupe du Monde 2019 avec le foot féminin. Symboliquement, ce serait fort. Surtout en France, où encore une fois, je vous disais tout à l'heure, où on a une vision malheureusement machiste des choses. Si on arrive à faire ça sur le foot féminin, là, ce sera un énorme pas.
Et ça pourrait démarrer, parce que si je ne m'abuse, il y a un vrai risque, parce qu'on peut parler de risque, d'un quart de finale contre les États-Unis. Si vous avez les États-Unis en quart, qui est la meilleure nation du monde, et que vous la battez, là, il y a quelque chose qui peut se passer. C'est vrai que si vous perdez, ça peut plomber l'ambiance. Si vous gagnez, ça peut être le match fédérateur qui va rassembler tout le monde à partir de la fin juin et vous amener jusqu'au bout, parce que la confiance sera là.
J'imagine que vous vous souvenez d'un certain France-Allemagne. C'était à Marseille. RFI était à Marseille ce jour-là. Et il y avait eu ce match en demi-finale de l'Euro, effectivement, qui avait
où tous les gens de ma génération avaient séché leurs larmes de Séville 82 d'abord. Et avaient fini en nage. Parce qu'un match au Vélodrome, ça n'a pas d'équivalent.
Pour cette Coupe du Monde, comment vous, ancienne joueuse et ancienne pratiquante et ô combien connaisseuse du football, comment vous voyez les Bleus avec un E, Mélina.
C'est ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que c'est pas forcément la meilleure équipe de France qu'on ait eue sur les 10 dernières années. Mais j'ai la sensation que on parle souvent du mélange d'expérience et d'innocence pour aller un peu vite, pour dire qu'il y a plusieurs générations au sein de la même équipe. Mais là, les joueuses expérimentées sont devenues sages. J'ai la sensation que il n'y a pas d'ego, il y a vraiment le passif historique, c'est-à-dire elles ont quand même intellectualisé et élaboré sur ce pied du podium là, cette troisième marche qu'elles n'arrivent pas à gripper. Et elles sont plus focus et les petites, les jeunes ont du mordant beaucoup plus que sont beaucoup plus engagées, beaucoup plus elles s'impliquent beaucoup plus, mais dans le groupe, pas que sur le terrain, dans le groupe. Et du coup, je pense que ça crée une certaine symbiose qui peut être bénéfique. En tout cas, l'atmosphère telle que nous on la ressent en tant qu'observatrice, on sent quelque chose de très sain et de très compétitif là cette année.
800 000 billets ont déjà été mis en vente et vendus, ce qui est énorme pour cette manifestation. Candice, quelles sont les nations alors qui peuvent un peu faire obstacle à la France sur la route? On parlait des États-Unis, évidemment, elles sont tenantes du titre. Hein, et il y a les Japonaises qui étaient en finale, elles aussi.
Elles vont nous embêter aussi, les Japonaises. Hein,
les Allemandes aussi.
Les Allemandes sont toujours très très bonnes, même s'il y a eu un petit creux ces dernières années. Mais ça n'empêche qu'il y a des équipes qui vont aussi très vite dans leur développement. L'Angleterre est numéro 3 FIFA, donc
le Canada
est allé beaucoup plus vite dans leur développement que nous, mais bon, sur des sujets de structuration de l'élite, le Canada, mais je les mettrai pas quand même dans les
pas
favoris,
mais par contre
oui, le Japon, les États-Unis, ils sont en termes de d'efficacité, est-ce que nous on manque cruellement, et elles l'ont, on ne sait pas pourquoi, c'est la culture quoi qui veut ça, hein. C'est l'histoire du soccer aux États-Unis, puis le Japon à la rigueur quoi, enfin incroyable.
Olivier et les Africains. Alors, le Nigeria, évidemment, celle qui gagne toujours.
Je crois que jamais une équipe africaine n'a franchi le premier tour, si je ne m'abuse.
Cameroun, 8e de finale.
Ouais.
En 2015. Ouais.
C'était en 2015, la dernière. Ouais. Le Cameroun avait franchi, c'était déjà un sacré exploit.
Nigeria, un quart. Elle
n'avait
pas fait un quart, Nigeria.
Je ne suis pas sûr. L'histoire de la Coupe du Monde féminine avec l'Afrique est compliquée. Là, on rappelle qu'il y a les Nigérianes, évidemment, les meilleures d'Afrique.
Dans le groupe de la France.
Il y a les Sud-Africaines. Et il y a les Camerounaises qui ont changé d'entraîneur. On verra ce que ça donne. C'est dommage, en tout cas pour celui qu'on avait rencontré
le personnage.
Et c'est toujours gênant, comme ça, à quelques mois d'une grosse compétition. Ça va être compliqué pour les équipes africaines, Annie. Surtout même le Nigeria dans le groupe de la France. Mmh. Mais bon, voilà, au moins une qui franchirait le premier tour, ce serait bien. Vraiment.
Le Nigeria peut passer. Hein. Le Nigeria
dans le groupe de la France,
chances, oui, parce qu'il y a la Norvège qui n'a pas Ada Egerberg le ballon d'or, donc ça peut être une option pour le Nigeria de passer sur.
Le Cameroun est avec le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas, alors que l'Afrique du Sud est avec l'Espagne.
Le groupe physique.
Afrique du Sud avec l'Espagne, la Chine et l'Allemagne.
Et comme d'habitude, Candice Prévost a toujours raison, puisqu'effectivement, le Nigeria a fait un quart en 99.
Ah. Bien joué.
Aux États-Unis.
Exactement.
Ouais.
Bonne mémoire.
Merci, Salim.
Bonne mémoire.
Bon, alors donc, on a deux fois les équipes africaines qui ont fait le premier tour, mais quand on lit les groupes, là, à part le Nigeria, c'est vrai que ça semble quand même très compliqué pour les Sud-Africaines.
Les Sud-Africaines sont très, très mal.
Karine Salim, sur cette Coupe du Monde.
Ben moi je suis inquiète. Je suis inquiète parce que quand on parle avec les filles et notamment les anciennes, il y a ce côté à chaque fois l'équipe de France était attendue et à chaque fois elle faisait partie des équipes favorites et il y avait ce manque d'expérience, ce manque de victoire qui finalement était présent au mauvais moment. Les Françaises n'ont encore jamais gagné et pour l'instant le déblocage le déclic n'a pas encore eu lieu et j'ai peur forcément et en plus ce qui me gêne un petit peu dans cette histoire c'est que notamment dans le groupe que Corinne Diacre a pris, elle n'a pas pris Marie-Antoinette Katoto et je comprends complètement qu'elle n'ait pas pris Marie-Antoinette Katoto et il y a énormément de gens qui ne regardent jamais le foot féminin qui t'expliquent que c'est Benzema, ça n'a rien à voir. Marie-Antoinette Katoto a 4 sélections, elle débute au plus haut niveau, elle n'est pas championne de France avec le PSG et elle n'a pas réussi ses gros matchs. Donc je comprends totalement la logique de groupe de Corinne Diacre.
Pas impliquée dans une sextape.
Je comprends complètement la logique de groupe de Corinne Diacre qui a fait beaucoup d'essais pendant cette année et qui a des joueuses qui lui ont su répondre présente. Et le problème, c'est que si la France ne gagne pas. Et si la France, par exemple, est arrêtée en quart de finale, tout le monde va nous expliquer avec Marie-Antoinette Catoto, ça aurait été différent. Alors que ça n'aurait pas du tout été différent. Mais je trouve que cette défiance qu'il y a autour des choix de Corinne Diacre est extrêmement gênant, parce que c'est pas du tout logique et c'est pas du tout mérité. Les gens, ils veulent toujours créer un problème. Alors on avait Deschamps avec Benzema. Là, on a Corinne Diacre avec Catoto. Donc j'espère que ça sera pas ça. Mais moi, je suis quand même inquiète.
Qui a été obligé de se justifier de son choix, pardon, Salim, mais qui a été obligée de se justifier de son choix pour dire qu'elle n'a pas pris Katoto, mais elle aurait pu le faire avec d'autres joueuses aussi, quoi.
Bien sûr, et elle aurait pu prendre Katoto et la laisser sur le banc et personne n'aurait crié dans ce cas-là, donc c'est vraiment une hypocrisie totale.
Salim, pour terminer.
J'ai envie de parler de méthode Coué, c'est justement parce que les dernières années, on y a cru et qu'au final, on a eu cette déception. Là, alors, Mélina disait très bien, c'est vrai que cette équipe est moins bonne que celle qu'on a pu voir les dernières années, mais il y a une cohésion. Et puis, il y a des choix forts de Corinne Diacre. Moi, Corinne Diacre, elle me fait au final beaucoup penser à Didier Deschamps dans ses choix, dans ses décisions claires et nettes.
Logique de groupe, c'est ce qu'elle dit tout le temps.
Et j'ai envie de dire, elles sont chez elles.
Et l'équipe de France, c'est l'équipe qui a joué la Coupe du Monde en Russie, avec des Pavards, avec des Lucas, qui arrivent, qui sont arrivés.
Qui paraissent peut-être pas la plus forte.
Même eux, ils étaient surpris d'être
Il ne faut pas négliger l'engouement populaire, encore une fois. C'est chez elles, c'est la première fois.
Il faut tenir un mois, plus d'un mois de compétition, et puis avec la préparation en amont, il faut bien s'entendre et la cohésion est un élément très très important.
Ça commencera donc le 7 juin pour l'équipe de France au Parc des Princes avec ce France-Corée du Sud. Et donc vous, mesdames, mesdemoiselles, vos documentaires le 6 juin, le 52 minutes Little Miss Soccer et ensuite décliné à partir du 7 juin en 12 épisodes. Mais restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de football, mais cette fois on va parler de football anglais.
Long, long run-up from David Luiz. And he hits the post! Raheem Sterling to take the final penalty. It's Sterling! Manchester City are Carabao Cup champions once again!
That's their blue moon!
Over the wall and in! 4-1 to Manchester City. An amazing Premier League title race comes to an end with Manchester City victorious. The Blues defend the title. Silver obliges, first time cross is low. And the ball is converted second time around by Raheem Sterling. 6 goals for City. Manchester City win the FA Cup as they do the unprecedented. A domestic treble.
The first time women's, they won it.
C'était une petite phrase pour vous, Mélina et Candice, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas macho, Pep Guardiola. Et c'est ce qu'il dit, ce n'est pas une première. Il rappelle que des filles l'ont déjà fait, de faire ce triplé national, anglais. Et Pep Guardiola, bien le rappelle, c'était les filles d'Arsenal qui l'ont fait en 2006-2007 sur la saison. Elles avaient même gagné 4 titres parce qu'elles avaient gagné une coupe européenne cette année-là. Oui. Exactement.
Enfin, qui s'appelait pas la Ligue des Champions, mais c'est
l'équivalent. C'était encore une coupe UEFA à l'époque.
Ouais, tout à fait.
En tout cas, 3 victoires en finale, ça reste historique chez les hommes, donc jamais avant les Citizens, aucune équipe n'avait réalisé ce triplé 100% anglais, donc championnat, Première Ligue, FA Cup et League Cup. Est-ce que c'est une aura supplémentaire pour ce club qu'on dit des nouveaux riches, Salim?
Vous savez, depuis la création de la Première Ligue, donc en 1992, on dit souvent qu'il y a des décennies en fait, et des clubs de décennies. Celui des années 90, c'est surtout Manchester United et un petit peu Arsenal, on va dire. Celui des années 2000, c'est surtout Chelsea, au final, qui a vraiment montré son importance. Et 2010, ce sera sans doute celle de Manchester City. Sur cette période-là, c'est 4 titres de champion d'Angleterre. Donc déjà, ça vous impose et ça vous montre quand même l'importance de cette équipe. Et il y a eu d'autres cups également remportés, et donc également la Coupe de la Ligue. Donc à un moment donné, quand vous faites l'addition de tous ces titres-là, c'est bel et bien City qui en a remporté le plus. Donc c'est un fait, là je ne parle que d'un fait. Oui, City est bel et bien l'équipe qui domine la Première Ligue, qui donc a marqué de son empreinte l'histoire de ce championnat. C'est un fait.
Karine, c'est grâce à Pep Guardiola?
Non, parce que il y a eu du travail qui a été fait en amont,
oui,
et ils ont été champions avec Pellegrini notamment.
Non, alors, mais le triplé historique. Non.
Non, ah, non, mais bien sûr qu'il a eu un rôle majeur.
C'est
bien
pas
sûr
qu'il grâce a, à lui, c'est ce que vous
bien sûr qu'il a un rôle majeur, mais pour moi, il y a aussi le choix évidemment des joueurs, et ce choix de joueurs est possible parce qu'ils ont des moyens incroyables. Et il y a aussi des choix de joueurs sous Pep Guardiola qui n'ont pas été bons. Il y a des défenseurs qui ont été achetés des fortunes et qui n'ont pas montré toute leur capacité. Mais il y a des joueurs qui ont été transformés aussi. Bernardo Silva, c'est pas le même qu'à Monaco, même s'il était beau. Évidemment, De Bruyne, c'est pas le même joueur, même Fernandinho, Leroy Sané, enfin, ils ont tous progressé avec lui, mais tout limiter et tout mettre sur l'auréole de Saint Pep Guardiola, moi je suis pas d'accord. C'est un club, et là je parle de club qui travaille très bien depuis des années. Et l'arrivée de Pep Guardiola, elle avait été travaillée en amont et ça avait été structuré. Donc c'est
oui, mais il a bien inculqué son style. Et il a
oui,
bien...
mais sauf que ça c'est possible parce qu'il y a un club qui travaille bien depuis des années, parce qu'il y a une philosophie de jeu qui est la même de bas en haut, et parce que il y a un club qui croit foncièrement aussi en ce que fait Pep Guardiola. Et malgré les échecs en Ligue des Champions, parce qu'on peut parler d'échecs, notamment les années précédentes, ils n'ont pas changé d'un iota en croyant toujours que Pep Guardiola était l'homme de la situation. Donc c'est la réussite d'un club pour moi et pas que d'un homme.
Ouais, quand on parle de structure d'un club, ce sont les bases en fait d'une institution qui ont été mises en place par City, notamment avec Bergerstein, ancienne légende de Barcelone, qui est arrivé avant Guardiola justement pour justement créer aussi ce qui est évoqué, donc cet organigramme qui a permis notamment le développement du centre de formation, le développement aussi d'un autre côté du foot féminin aussi, mais qui est important aussi à City. Bref, de beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui City a les bases, je ne dis pas qu'elle le sera, mais les bases d'une institution.
L'Europe et les résultats sur la scène européenne et en Ligue des Champions.
Là, en gris basse.
Cette année, ils sont arrêtés en quart de finale par Tottenham, qui est finaliste. Est-ce que c'est une ombre au tableau ?
Après, ça joue, on le rappelle, à 5 cm. Si Agüero n'était pas hors-jeu sur l'action, on n'aurait pas eu cette discussion peut-être. Mais forcément, c'est une ombre au tableau. Et puis, n'oublions jamais quand même Pep Guardiola, lorsqu'il est arrivé à City. En fait, il avait un objectif, celui de montrer aux gens que moi, je peux gagner une Ligue des Champions en n'étant pas à Barcelone. Alors, il l'a fait avec Barcelone, il l'a pas réussi avec le Bayern. Donc, il se dit, avec City, avec mes moyens quasi illimités, je vais pouvoir amener mes joueurs et faire en sorte que... Au final, il a pas réussi à le faire. Alors, vous allez me dire, sur le plan national, et on l'a vu, ce triplé historique, jamais personne n'a fait. Lui, il le fait, donc c'est déjà quelque chose de très fort, évidemment.
Est-ce que c'est plus important? Parce qu'on dit toujours que les Anglais ont la culture du club et que finalement ça peut être plus important.
Pas forcément à City. C'est ça le truc. Dans d'autres clubs, je vous aurais dit oui, à Liverpool par exemple. À City, ça a son importance évidemment. Après, de soulever le trophée européen pour les supporters aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, c'est plus important de soulever la Ligue des Champions que le championnat pour Manchester.
Parce que ça sera le premier. Mais après, on a quand même vécu un championnat absolument dingue.
Évidemment.
C'est-à-dire que le deuxième a perdu un match. Liverpool a perdu qu'un match.
97.
C'est complètement dingue d'avoir vu un championnat aussi relevé. Après, moi, je ne mettrai pas dans les échecs cette année, parce que on a vu des matchs dingues, notamment le match retour. Pour moi, il y a plus eu des échecs lors des deux saisons précédentes où tu t'es arrêté tôt sortir par des équipes qui sont moins calibrées que toi pour aller loin en Ligue des Champions. Après, voilà, l'histoire de Tottenham, c'est l'histoire un petit peu de cette Ligue des Champions qui est complètement folle avec des retournements de situation dingues.
La question du jour, la question qui vaut très cher, plus la question
24 millions d'euros.
24 millions d'euros, voilà, ouais. Vous avez tout dit. Est-ce que Pep Guardiola va rester à Manchester City ou est-ce que, comme le dit la rumeur et notamment une agence italienne aujourd'hui, ce qui a affolé la bourse de Milan et les actions de la Juve sont montées en flèche, est-ce qu'il est en partance pour la Juventus de Turin ?
24 millions d'euros, c'est le salaire évoqué pour Pep Guardiola à la Juventus. Lui qui touche un petit peu moins de 20 millions d'euros à City. C'est très peu, évidemment. Mais c'est très surprenant comme information, mais ça a l'air d'être de plus en plus crédible. Surtout que Pep Guardiola, depuis de nombreuses semaines, n'arrête pas de le dire. Moi, si je pars de City, ce sera pour deux raisons. Soit parce qu'on me vire, soit parce que mon contrat se termine. Or, ce contrat n'est pas terminé. A priori, les dirigeants n'ont pas envie de s'en séparer. Donc, c'est vrai que là, c'est très étonnant. Lui qui, lorsqu'on l'a souvent interrogé ces dernières semaines sur des départs, pas forcément la Juve, mais d'autres clubs, il a toujours dit « Non, je partirai pas, je veux gagner encore d'autres choses avec City, etc. » Donc là, d'entendre cela, mais c'est vrai que le fait qu'Allegri soit parti, en tout cas, ça a été officialisé il y a quelques jours.
Voilà, parce que depuis qu'il le disait, on n'a pas le temps d'entendre, là, mais il l'a répété il n'y a pas longtemps. « Non, je pars pas. »
C'est ça.
Alors aujourd'hui, l'avocat de Manchester City, qui est un Italien d'ailleurs, leur dit non, c'est ridicule. Malgré tout, notre correspondant en Italie, Matteo Cioffi, ose y croire.
Et c'est pas le seul à y croire, effectivement. Après, voir Guardiola entraîner Cristiano Ronaldo, ça, ce serait une bonne question à avoir. Et il aurait son héros, il avait Messi, il aurait peut-être
Cristiano. Enfin, lui qui continue de dire même à City que le meilleur joueur du monde est Messi.
Oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai, ça.
C'est ça. Oula, alors, il va falloir négocier. Merci beaucoup, Mélina Boessi et Candice Prévost. Merci beaucoup pour votre travail. Et c'est aussi à lire sur la page Facebook de RFI. Merci à David Brocco et à David Finzel. À demain.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.